Alors nous allons aujourd'hui aborder un sujet très particulier, spécialisé de la pratique astrologique, qui est l'astrologie mondiale. Nous connaissons tous l'astrologie par sa pratique individuelle. En revanche, l'astrologie mondiale reste un sujet peu exploré, très spécialisé, qui demande donc une connaissance à la fois de l'histoire et de la pratique astrologique très pointue. Et pour nous accompagner durant cet entretien, j'ai à mes côtés deux personnes qui ne sont pas des personnes inconnues, des habitués de Baglis. À ma gauche, André Barbeau, qui a consacré 75 ans de sa vie à la pratique astrologique, et en particulier à la pratique de l'astrologie mondiale, dont il est l'un des grands spécialistes. Et à ma droite, Luc Biget, un doctorat en biochimie.
En biochimie.
Oui. Tu diriges aussi l'Université du Symbole,
oui.
C'est ça? Et j'ai cru comprendre que dans ton approche, tu voulais concilier l'approche scientifique de l'homme à l'approche symbolique. Mmh. Pour toi, ces deux points sont indissociables et complémentaires.
Ils sont surtout complémentaires.
Complémentaires.
Oui. Mmh.
Pour ouvrir la conversation, je vais vous poser une question très simple. Vous êtes tous les deux astrologues. Et qu'est-ce qui vous a amené tout particulièrement à vous intéresser à l'astrologie mondiale? André?
Oh, je crois que... C'est déjà connu, mais il faut bien le répéter. J'ai eu la chance d'avoir un frère aîné, Armand Barbeau, qui, lui, m'a formé à l'astrologie à partir de l'âge de 14 ans. Et je sais maintenant que nous sommes trois à avoir commencé l'astrologie à 14 ans. Et alors, l'intérêt à la mondiale a été, pour ainsi dire, quasi immédiat, parce que mon frère et moi, nous avions la passion de la politique, et pour cause d'ailleurs, ça se passait en 1936, le Front Populaire, une révolution fantastique. Et alors, c'est à partir de l'intérêt porté à l'interprétation des événements qu'on s'est lancé un peu dans la mondiale. Voilà le point de départ.
Luc ?
Moi, c'était non pas 1936, parce que j'étais pas encore né, mais 1989. Il y a eu les événements qu'on connaît, et évidemment je regardais ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là, et effectivement il y avait des systèmes de conjonction importantes. Mm-hmm. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc du coup, je me suis mis à regarder l'histoire du communisme de manière un peu plus en détail à travers les cycles Saturne-Neptune. Et au fond, c'est ça qui m'a à la fois convaincu et introduit à l'astrologie mondiale, en voyant qu'il y avait vraiment des liens, on va dire, entre l'état du ciel à un moment donné et les événements historiques collectifs. Et je trouve aussi que c'est un élargissement important par rapport à l'astrologie individuelle, parce que ça met en scène, au fond, les grandes... Alors, moi j'ai une approche symbolique, donc je dirais comment les archétypes s'incarnent dans l'histoire... Alors que l'astrologie individuelle, c'est plutôt comment arriver à... C'est une ontologie, c'est une science de l'être, hein, c'est-à-dire comment arriver à la révélation de son identité profonde. Donc l'astrologie mondiale, si je devais donner une définition, ce serait comment progressivement... C'est pas en fait l'histoire qui fait les mythes, c'est les mythes qui font l'histoire. C'est-à-dire comment, au fond, les grands schèmes de sens, les grandes structures mythologiques, puisqu'on peut les ramener, les planètes sont des dieux, s'incarnent progressivement dans l'histoire pour produire du sens à travers des formes qu'on appelle les événements.
Et une question d'ordre très pragmatique. Pour l'astrologie individuelle, nous savons tous que nous créons un thème, nous calculons un thème astrologique à partir de la date, de l'heure et du lieu de naissance d'un sujet. Nous montons la carte du ciel. Mais en ce qui concerne l'astrologie mondiale, comment travaillez-vous? Quels sont les critères d'études, de prospectives pour l'astrologie mondiale?
Alors, je reviens à mon point de départ. Nous sommes en 1936. Et jusque-là, il y a des astrologues qui font quand même un peu de prévision de mondial, et ils interprètent quoi ? Ben, les aspects, les positions planétaires. Mais ils les interprètent d'une façon en séquence. Autrement dit, tel aspect, puis tel autre aspect, isolément. Et alors, ce qui se passe en 36, c'est un phénomène très important ressenti par mon frère. Il me dit, tu vois, cette année, il y a la guerre d'Espagne, on combat contre le communisme, il y a les procès de Moscou, et nous sommes sous l'opposition Saturne-Neptune, et il y a eu la conjonction initiale Saturne-Neptune en 1917. C'est là, à la conjonction, qu'il y a eu la révolution russe. Et alors, il y a donc une antinomie entre la naissance d'un courant et des phénomènes oppositionnels. En Russie, on démolit carrément ce qui s'est passé en 17, et en Espagne, c'est la guerre contre le communisme, contre le socialisme. Et alors il ajoute, mais il y a aussi le Front populaire. Alors le Front populaire, c'est autre chose. Mais c'est finalement une fièvre révolutionnaire qui a très vite tombé. À partir de là, il n'y est plus question de penser l'aspect. Il est question de penser le cycle. Et alors, c'est à partir de là qu'on s'est mis à travailler les cycles planétaires. Voilà le point de départ pour nous.
D'accord.
Moi, je suis d'accord avec André, c'est-à-dire le cycle entre deux planètes est essentiel en astrologie mondiale, en voyant l'ensemble du processus, c'est-à-dire de la conjonction à la nouvelle conjonction. Alors, en fait, il y a plusieurs choses importantes, me semble-t-il. Il y a bien sûr les deux planètes qui vont décrire un cycle, c'est-à-dire raconter une histoire, au fond. Il y a le signe de la conjonction, qui est fondamental parce que ça donne la note de départ. Juste un exemple, puisqu'on est sur les cycles Saturne-Neptune. 1847, conjonction Saturne-Neptune, début d'un grand cycle qui a lieu en Verseau. Donc c'est à ce moment-là, Marx publie son fameux manifeste du Parti communiste.
C'est la naissance du marxisme.
C'est la naissance du marxisme.
Et la révolution de février 48.
Et là, après, il y a eu la révolution de février 48, absolument.
Datée européenne.
Ouais, ouais. Alors, si on reste sur les cycles Saturne-Neptune, la prochaine conjonction a eu lieu, si ma mémoire est bonne, en 1883, en Taureau. C'est le moment du décès de Marx. La suivante a eu lieu en 1917, en Lyon, c'est le moment de la Révolution russe. Et la suivante encore a eu lieu en 1953, en Balance, avec
la mort de Staline,
Khrouchtchev qui arrive au pouvoir, le dialogue Est-Ouest qui reprend donc le sens de la Balance. Et la dernière conjonction du cycle, avant que ça reparte après le Verseau, c'était en Capricorne, en 89, chute de du mur de Berlin. Donc toute l'histoire du communisme, au fond, est racontée par les conjonctions successives Saturne-Neptune autour du Zodiac, avec 4 ou 5 conjonctions. Donc je trouve que c'est très impressionnant de voir ça. Donc à la fois, on a évidemment le cycle Saturne-Neptune, mais on a le grand cycle, qui est le nombre de conjonctions successives Saturne-Neptune pour que l'ensemble du zodiaque soit parcouru par les conjonctions. Et évidemment, le signe de la conjonction est fondamental, puisque toute l'histoire du communisme s'est passée sous l'égide du Verseau, c'est-à-dire matérialisme scientifique et révolution, qui sont des valeurs Verseau. Donc les 144 ans du communisme. Ensuite, le décès de Marx en 83 en Taureau, nouvelle conjonction Saturne-Neptune, l'expansion territoriale.
Vous parlez de la conjonction de 1883. C'est 82.
Oui.
Mais dites, c'est surtout le éclatement des partis marxistes en Europe.
Oui, la diffusion, vous voulez dire, la multiplication.
Il y a une question que je voudrais vous poser au milieu de ça, c'est pourquoi le cycle de conjonction est prédominant, le plus important.
C'est pas la conjonction. Non, tout est important. Ça n'a pas le même sens.
Voilà. Alors justement, quel sens tu accordes à la conjonction?
La conjonction, c'est un moment semence. C'est une germination. Alors que l'opposition, c'est une étape fleur. C'est-à-dire, c'est une floraison, c'est l'objectivation, la matérialisation d'un processus. 1917, c'était l'opposition par rapport à 1847. C'est-à-dire, 1847, conjonction en Verseau, 1917, nouvelle conjonction en Lyon. Donc, c'est un peu compliqué, mais la conjonction de 1917 a joué un rôle d'opposition par rapport à la conjonction du début du cycle de 1847.
Je pensais que c'était un saut. Encore à un niveau supérieur.
Oui.
Ça peut aussi bien être l'un que l'autre, hein. Mais c'est quand même un saut.
Alors c'est un saut à un niveau supérieur parce que c'est une opposition, c'est la matérialisation de l'idéal marxiste dans une révolution. Mais en même temps, c'est le début de la révolution. Donc c'est à la fois une valeur d'objectivité, opposition, parce que c'est l'opposition du grand cycle, mais nouvel État qui naît, qui va être l'URSS à partir de 1921, parce que c'est une conjonction. Et le lion, c'est l'affirmation identitaire.
Parce qu'au fond, la configuration de la naissance du marxisme, ce n'est que du virtuel.
C'est-à-dire
en 80, celle de 48, de 18...
47.
J'ai une tête. 47. De 47-48, oui. Mm. C'est, au fond, la naissance de l'idée, de la donnée, si j'ose dire. Et alors, celle d'après, de 82, c'est déjà un établissement. Il y a des partis socialistes marxistes qui s'installent sur le continent.
Donc c'est une valeur de carré croissance.
Et alors c'est une croissance. Voilà. Et alors 1917, C'est une concrétisation. Le marxisme, enfin, le parti communiste s'installe en Russie. 52, c'est encore un dépassement. Staline disparaît. Et c'est là que se joue le phénomène inverse. Voilà. On aboutit à la conjonction de 68 avec l'effondrement du communisme.
Oui, oui. 89.
Hein. 89. 89-90, ça dure de 89-90. Ouais. D'un seul coup, ça a basculé dans le négatif. Et il faut avoir recours à d'autres cycles pour pouvoir voir cette donnée. Oui. Moi, vous savez que j'ai fait cette prévision 30 ans à l'avance.
Oui, j'ai vu ça.
J'en ai fait deux. J'ai fait deux. J'avais l'occasion de dire 52-53, il va y avoir un renouveau. Et j'annonce un changement. Ma formule, c'était de dire un renouveau des hommes d'État au Kremlin. Staline meurt au mois de mars. Alors, bon, d'accord. Alors, dès lors que cette prévision a marché, je suis sûr que celle de 89 va marcher. Alors, j'ai donc tambouriné ça pendant tout le long du cycle. Hein. Mais en étudiant toujours, pour être sûr, le semi-carré, le sextile, le carré, le trigone, voyez-vous, l'opposition, d'un bout à l'autre. Hein. Et chaque fois, ça répondait.
Alors ma question,
quand on a donc une continuité du phénomène cyclique, on se dit, ça va marcher.
Et en plus, ce qui est donné par le sens des planètes en jeu. C'est-à-dire, Saturne, Neptune, c'est littéralement la matérialisation de l'utopie.
Oui.
Neptune, l'utopie, Saturne, la matérialisation. On a plusieurs critères. On a le critère du cycle, on a le critère du signe du zodiaque où commence le cycle, et on a le critère du sens des planètes en jeu. Donc là, ça permet de focaliser quand même sur des choses très précises en mondial.
Mais la question, les cycles donc brassent, je dirais, entre guillemets, de l'événement collectif, j'ai bien entre guillemets tout cela, et ma question c'est, il y a les États, il y a les chefs d'État. Et les chefs d'État impriment donc sa volonté sur la masse. Hein. On a un exemple aujourd'hui avec ce qui se passe en Tunisie. Ah bon. Donc,
c'est un exemple contraire, plutôt.
Je parle de l'événement, justement. Là, il est renversé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un événement, quand même, qui correspond aussi à un cycle actuellement planétaire. Bon, mais ma question, c'est la part d'intervention dans tout ça du thème individuel qui est le thème du chef d'État en la circonstance. Est-ce que vous en tenez compte? Dans vos interprétations de mondial, est-ce que ça intervient après?
Il y a quand même un déterminisme collectif qui passe au-dessus du déterminisme individuel. La meilleure preuve, c'est que la plupart des hommes, beaucoup d'hommes d'État vont prennent le pouvoir en ayant une intention, un programme, puis leur programme, il ne se réalise pas. Je pense que...
D'accord. D'autant plus que c'est très difficile sur le long terme de savoir qui sera aux commandes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc le thème du chef de l'État, au mieux, c'est dans l'année en cours. Par contre, effectivement, les grands cycles mondiaux astrologiques sont un facteur prédominant sur les facteurs de l'individu. On peut le formuler autrement, en disant, au fond, les personnes qui sont élues, au moins dans les démocraties, à un moment donné de l'histoire, sont le reflet de ce grand schéma historique.
Donc, est-ce qu'on peut apparenter, en quelque sorte, l'astrologie mondiale à l'inconscient collectif dont avait parlé Jung, selon vous?
Ben oui, bien sûr. Un exemple flagrant, c'est le cycle d'Hitler. Le cycle du nazisme commence à la conjonction Jupiter-Pluton de 31 et s'achève à la conjonction de 43. La guerre a duré un peu plus longtemps, mais il y a un devenir du cycle qui est extrêmement frappant.
Le cycle du nazisme, c'est Jupiter-Pluton, et le cycle des guerres mondiales, c'est Saturne-Pluton, en fait.
Alors, il faut faire intervenir tout l'ensemble.
Oui, oui, absolument.
Alors, ici, on dépasse, alors, j'en suis venu à la notion d'indice cyclique parce que il faut faire venir l'ensemble de toutes les planètes, enfin.
Non, c'est ça.
Et alors, il apparaît nettement que quand les planètes autour du Soleil se dilatent, prennent de l'espace, là, on fait l'addition des distances des planètes. L'indice est ascendant et j'en ai généralement. Il y a une créativité, il y a une positivité de l'essor de la société mondiale. Et quand l'indice dégringole, c'est absolument l'inverse. Et alors, le plus significatif des deux guerres mondiales, c'est qu'elles se situent au moment d'une grande concentration planétaire. Et alors, d'ailleurs, c'est facile. Il suffit de lire le nombre de répertorier les grandes conjonctions. Il y a de 14 à 19... parce qu'il y a après la guerre finie en novembre 18, et puis il y a la suite. Alors, de 14 à 19, vous avez une conjonction 14, deux conjonctions ensemble, Jupiter-Uranus, Saturne-Pluton, il y a après Saturne-Neptune, enfin, il y a 4 ou 5 conjonctions. Et vous avez la même chose de 40 à 45. Alors, il est normal qu'il y a donc des concentrations planétaires et que le graphique puisse le percevoir. J'ai formulé une prévision première pour le 21e siècle en montrant ce graphisme et on voit, qu'est-ce qui se passe? On voit pour 2010 une pointe aiguë en bas. La crise de 2010 était très prévisible. Et alors, on a un indice qui chute considérablement. On a un effondrement qui aboutit à une pointe très basse, la principale, la plus basse de tout le 21e siècle, pour 2020. La crise actuelle n'est que un processus qui va jusqu'à 2020.
Je suis d'accord que la crise 2020-2021, et après on repart, il y aura une nouvelle expansion à partir de 2026. Mais par-delà les dates, ce qui me paraît important, c'est deux choses, c'est trois choses en astrologie mondiale. J'ai envie de dire la vision, la méthode et les applications. La vision, c'est quoi? Pour moi, en tout cas, l'astrologie mondiale permet de voir comment l'anima mundi, l'âme du monde, s'incarne progressivement dans les processus historiques. Et notamment avec Uranus, Neptune, Pluton, parce que on pourrait dire Uranus, c'est la, entre guillemets, la pensée de Dieu, le monde des idées platoniciennes. Neptune, c'est l'amour de Dieu, et Pluton, c'est la volonté de Dieu. Autrement dit, Neptune valorise liberté, égalité, fraternité. Et Pluton, liberté avec Uranus, fraternité avec Neptune, et égalité avec Pluton. Fraternité, pardon, avec Pluton.
Ah, c'est pas Neptune, la fraternité.
Alors,
j'aurais pensé au niveau symbolique.
Ça dépend des définitions qu'on donne, parce que c'est très ambivalent. Mais simplement, je voudrais développer la vision qui est au fond les grands mouvements des planètes dans le ciel, organisent l'histoire et montrent au fond comment, je l'évoquais tout à l'heure, comment le mythe s'incarne dans l'histoire. Autrement dit, comment l'âme du monde peut reprendre la vision de Hegel, comment à travers l'histoire humaine, l'esprit devient conscient de lui-même. Et donc, on a la chance d'avoir ce système astrologique qui permet de comprendre le processus de ça, parce que ça se réalise pas d'un coup. Donc, on n'est pas dans une dimension religieuse où l'archétype, le Dieu, s'exprime à travers les croyants dans cette foi. On est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui montre comment, au fond, le monde des idées, le monde de l'amour et le monde de la puissance de la volonté, et non pas la volonté de puissance, Pluton, s'exprime progressivement dans les affaires humaines. Et donc ça va prendre des formes à travers les événements. Donc ça, c'est la vision. Après, on a la méthode. Alors la méthode, évidemment, il y a l'approche des cycles qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est insuffisant en astrologie mondiale. Est-ce qu'il y a une géographie planétaire? C'est-à-dire pourquoi, au fond, Saturne-Neptune s'est incarné à Moscou et pourquoi il ne s'est pas incarné à Washington ou à Paris, etc. Pourquoi l'incarnation du mythe de Prométhée, qui correspond à la découverte d'Uranus, pourquoi elle s'est incarnée, on va dire, en France, avec la révolution de 89, sur le plan social, sur le plan émotionnel, on va dire? Pourquoi elle s'est incarnée en 1760 en Angleterre, avec le début de la révolution industrielle? Et pourquoi elle s'est incarnée aussi aux États-Unis en 1777, avec la première constitution au monde? C'était plus un roi, un pape ou qui dirigeait la planète, mais un bout de papier. Donc ça, c'est une vraie révolution uranienne. C'est-à-dire que c'est la pensée qui domine et non plus les personnes. En fait, si on regarde un peu, on voit que... Donc ça, c'est très Prométhée, hein, au fond. Et on voit que ce mythe Prométhée, il s'est incarné, il s'est manifesté en Angleterre sur le plan physique, c'est une révolution industrielle, aux États-Unis sur le plan mental, c'est-à-dire la conception de la Constitution, et en France sur le plan émotionnel. Donc après, on peut mieux comprendre pourquoi il y a des types d'échanges qui s'installent entre ces trois nations. Donc ça, réfléchir à une... J'ai pas toutes les clés, malheureusement, mais réfléchir à une géographie planétaire, et donc...
Ça, c'est le problème.
C'est le problème. Et donc des chakras, l'équivalent des chakras sur le corps planétaire. Mmh. On peut dire, par exemple, que le pôle Nord correspond au centre coronal, mais peut-être que le Jérusalem correspond au plexus solaire.
C'est une projection anthropomorphique.
Alors, oui et non, c'est-à-dire, c'est une analogie. C'est-à-dire, on peut aussi dire l'inverse, c'est-à-dire l'âme est à l'image de la planète ou la planète est à l'image de l'âme. C'est pas vraiment une projection anthropomorphique. C'est l'organisation d'un grand système qui se répète à tous les niveaux d'organisation.
On peut aller plus loin. L'homme est planète et la planète est homme.
Voilà, donc c'est une pensée analogique.
C'est le fondement.
Alors, ce qu'on connaît le mieux, en principe, c'est l'homme. Donc après, on peut. Mais si on regarde l'histoire,
on bute à ça. On a du mal à pouvoir
localiser.
Ça, c'est difficile. Ouais. Ça, c'est très difficile, oui. Alors, et peut-être ça fluctue dans le temps. Parce que c'est vrai que, au moins jusqu'en, alors je sais pas comment ça va faire après, mais au moins jusqu'en 1989-91, Le nord de l'Europe était plus sensible à Neptune, c'est-à-dire aux idéaux de partage. Le sud était plus sensible à Uranus, c'est-à-dire la dimension libérale. Et entre les deux, on a cette zone de tous les dangers, qui est l'ancienne Lotharingie, je veux dire,
pas, parce que tu sais, qui est plutôt après, tu peux interpréter après. Ce qu'il faut, c'est arriver à interpréter avant.
Voilà, c'est le test cardinal d'un modèle astrologique de l'histoire.
C'est toujours la grande question.
Oui, mais regarde quand même, si tu regardes l'histoire, et encore aujourd'hui, il y a une zone que j'appelle la zone de tous les dangers, qui va de Bruxelles à Manille, qui est liée à Pluton, au cycle de Pluton. C'est-à-dire, les grandes catastrophes mondiales sont nées dans ces territoires-là. Les deux guerres mondiales sont nées dans les Balkans. La Belgique, aujourd'hui, elle est un peu secouée. Et si on descend, on arrive à quand ? On arrive à la Turquie, on a Israël, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan. Plus loin encore, on a le Cachemire, avec le problème avec l'Inde, le Pakistan. Et si on va encore après plus loin, on a les Philippines et Manille. Donc tout ça, c'est des zones de tension internationale terribles. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de... que cette zone-là qui réagit à Pluton, entre guillemets, est le lieu où l'inconscient collectif entre l'Asie et les mondes occidentaux est en confrontation. Et donc, ces zones sont importantes à regarder, en tout cas, et sont plus sensibles, évidemment, à la symbolique de Pluton, qui est la métamorphose de l'homme et l'intégration de l'ombre.
André, ton opinion là-dessus ?
J'ai fait des recherches sur la localisation.
Oui.
Alors, évidemment, je suis plus concret ou plus pragmatique, puisque prévoir, c'est quand même travailler sur un matériau qui soit tangible, historiquement. Alors, par exemple, c'est le classicisme de la mondiale. J'ai dressé les thèmes d'ingrès, zéro bélier, les thèmes de saison, les quatre positions des angles. J'ai dressé les thèmes des lunaisons, quoi encore, si, pour les déclarations de guerre, je n'ai rien trouvé.
Oui.
Alors, j'ai fait ça sur tout ce que je pouvais avoir, pas plus que seulement une soixantaine. Alors j'ai donné d'ailleurs dans mon dernier livre d'astrologie mondiale un graphisme où la répartition de quelque chose, 300 positions de Mars autour. J'attendais un résultat, mais je disais, mais il faut, enfin voyons. Non, j'ai rien trouvé.
Oui, c'est très difficile.
Alors, certes, je m'en cache pas, je l'ai dit, certes, quand on est en 39, justement, en 39, l'ingré du bélier pour... la zone de Angleterre, France, Allemagne, il y avait un lever de Mars. Il y avait également une culmination de Mars. Je me rappelle plus d'ailleurs. Peu importe, il y avait une angularité, levée ou culmination de Mars, à la fois à l'ingré du Bélier, 21 mars de 39, également à l'ingré de l'été, car la guerre a éclaté le 1er août. Donc, entrée du soleil en cancer, également, et la lunaison du mois d'août, où il y avait également un élément angulaire de Mars. Alors, j'ai vu ça aussi pour la Seconde Guerre, pour les deux guerres mondiales. Hein. Mais une fois que j'ai fait ça pour les autres pays, j'ai rien trouvé. Alors, je sens que, dans ce cas-là, qu'est-ce que fait ? Je n'y touche plus. Finalement, ma pratique astrologique est très limitée. Elle concerne l'essentiel des cycles. Et je peux pas faire plus.
Oui.
Il faut toute une équipe d'astrologues pour travailler ces choses-là.
L'élément clé, c'est vraiment le cycle. Et en voyant que, en même temps, toutes les conjonctions d'un grand cycle, c'est-à-dire le temps que toutes les conjonctions se fassent autour de tous les signes du zodiaque, n'ont pas le même sens, n'ont pas la même portée. Je veux dire, lorsque Marx, pour reprendre cet exemple, en 1847, écrivait son manifeste à la bibliothèque de Bruxelles, c'était un événement absolument anodin. Et donc les débuts du grand cycle sont anodins. Par contre, la révolution de 1917, qui est l'opposition du grand cycle, mais qui était aussi une conjonction Saturne-Neptune, était visible pour tout le monde. Donc toutes les conjonctions n'ont pas le même sens. Il faut vraiment les replacer dans le contexte de l'ensemble du zodiaque.
Ouais, j'ai fait ça aussi.
Alors la question que je voudrais aborder maintenant... c'est revenir à l'homme, et l'homme est au centre de tout, de toute façon, de tout cela. On note les cycles à venir, on peut dégager une tendance à partir de ce que vous avez développé l'un et l'autre, tendance de la planète, du signe, etc. Mais là-dessus, on peut avoir le sentiment qu'il y a une sorte de fatum qui est là, qui règne. C'est le sentiment qui peut se dégager, qu'il y a un fatum qui est là, à l'intérieur de laquelle l'homme, l'être, est pris. Mais l'homme est aussi habité par un monde symbolique, qui est son propre thème de naissance. Donc, quelle est la part d'interaction sur les deux ? Parce qu'après tout, c'est de l'homme que naissent les révolutions. C'est lui qui en est porteur. Moi, je suis très proche
c'est la même chose.
De Prométhée. Oui. Et le feu prométhéen, pour moi, est toujours là. Oui, mais... Et quelle est la part, donc, d'action? Ma question est un petit peu compliquée parce qu'elle peut ouvrir un vaste débat. Mais quelle est la part que nous avons à l'intérieur de tout ça?
Je veux dire, on a une pensée séparatiste. Et c'est un peu le problème d'Uranus qui a une pensée paradoxale et séparatiste.
Mais ça existe quand même.
Mais juste, je voudrais...
Non, vas-y.
Le thème astrologique individuel et l'astrologie mondiale, c'est la même chose. Simplement, le thème astrologique, c'est un moment d'un grand cycle mondial. Donc, tout dépend comment on voit le truc. C'est-à-dire, est-ce qu'on est focalisé sur les grains de sable ou est-ce qu'on est focalisé sur la plage? Mais les grains de sable, ils font forcément partie d'une plage. Donc, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. On est la matérialisation à travers notre identité, notre corps, nos valeurs, d'un moment particulier du cosmos. Et l'astrologie décode la succession de tous ces l'astrologie mondiale décode la succession de tous ces moments du cosmos, et l'astrologie individuelle essaie de révéler au plus fin la lumière du grain de sable. Mais lorsque tous les grains de sable seront lumière, l'histoire aura changé.
Bien sûr.
Mais en même temps, pour rester dans la métaphore, le mouvement des vagues sur la plage est infiniment plus puissant que le grain de sable. Autrement dit, on est forcément conditionné par l'histoire. C'est à la fois une évidence en même temps.
Bien sûr. André,
Je peux vous donner deux exemples concrets. Mm-hmm. Je les ai présentés dans un texte que j'intitule dans mon site Panorama des affinités électives. Le cas, par exemple, le cas individuel. Louis XVI a été guillotiné. Il avait une conjonction Soleil-Jupiter à 29 lions, 0 vierge. Et les quatre hommes d'État, ou les quatre politiques qui ont fait la Révolution française, alors tu peux les citer, avaient tous les quatre Mars à une dizaine de degrés les uns des autres sur la conjonction Soleil, Jupiter en 12, la prison, ça va
c'est
le faire.
C'est ça qui est fabuleux.
On a vraiment le sentiment d'un amoncellement. Alors, Robespierre, vas-y sur les noms, Danton, Marat, et puis le camp Saint-Just. Alors, le phénomène collectif, je vais vous le signaler, quand vous traitez par exemple la guerre de n'importe laquelle des deux, la guerre de 45 par exemple, vous posez les mars de l'Union soviétique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de l'Angleterre et des États-Unis, et vous avez une conjoncture remarquable. Alors, remarquable d'autant plus que ça fonctionne avec les transinalures de Neptune. Neptune transitait Mars de l'Allemagne nazie. Mars, quand Hitler a pris le pouvoir, il était à 21 degrés de la Vierge, quelque chose comme ça. Et alors, ça fonctionne également avec tous les... Il y a une combinatoire qui est extraordinaire.
Il y a un jeu extraordinaire.
Alors, le Mars de l'Allemagne nazie à 21 degrés de la Vierge est au carré du Mars dans les 20 degrés des États-Unis. Et alors, ça fonctionne. Et ça fonctionne avec le déplacement des planètes. Alors, c'est vrai, ça fonctionne aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif.
Bien sûr. Alors, c'est souvent étonnant. Si on regarde le thème individuel, Marx était taureau à son verso. Bon, quand on écrit le Capital, on est forcément taureau à son verso, entre guillemets. Mais lorsqu'il est mort, en 83, la conjonction Saturne-Neptune tombait sur son soleil. C'est-à-dire, ou sur son ascendant, pardon, sur son ascendant. Sur son soleil, puisque c'était en taureau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de synchronicité incroyable entre le thème individuel et la vie collective, et que c'est ça la magie de l'histoire. C'est-à-dire, c'est lorsqu'une destinée individuelle rencontre un grand courant de conscience énergie collective.
Et la magie de l'astrologie.
Et la magie de l'astrologie, parce que ça rend ça objectif.
Ça donne du sens.
Ça permet de... disons que ça permet de le visualiser à travers des symboles. Donc on sait que c'est pas de la pure imagination, et on peut vérifier que ça peut se répéter avec toute la complexification de la répétition en astrologie, parce que le ciel est jamais identique à lui-même, donc tout ça c'est un peu compliqué à rentrer dans des statistiques. Mais quand on raisonne en termes de sens, ça s'éclaire d'une manière extraordinaire.
Justement, pour rester sur cette question du sens, cette pratique que vous avez l'un et l'autre de l'astrologie mondiale, aiguë, et même en tant qu'astrologue aussi pratique individuelle du thème, parce qu'on commence par cela, en quoi ces découvertes, ces constats, ces investigations que vous faites sur demain, également sur le passé bien sûr, en quoi ça a une résonance sur votre rapport à la vie, votre perception de la réalité? Je crois que ça ne peut pas laisser neutre. Ça me semble.
Disons, pour répondre à... rapidement.
André, tu voulais répondre. D'accord.
Disons que ça m'a permis d'abord de voir que l'histoire a un sens. C'est-à-dire, elle n'est pas chaotique, elle n'est pas non plus prédestinée. Au fond, pour parler un peu d'un point de vue philosophique, on pourrait dire que l'histoire, telle que le suggère le modèle astrologique, se situe entre la vision de Hegelienne et la vision marxiste. Parce que Hegel disait, au fond, c'est la ruse de la raison. Hegel disait, au fond, à travers les passions humaines, la raison, il l'écrivait avec un R majuscule, cherche à se révéler à travers les histoires humaines et les âmes à travers leur objectif personnel, ignorent la nature de cette grande raison qui est l'histoire de l'histoire. Et Marx disait inversement, il faut construire, il faut pas philosopher la réalité, mais réaliser la philosophie. C'est-à-dire, l'homme est à même de prendre en main son destin, donc il va construire son histoire. Et là, je crois que l'astrologie permet de comprendre qu'on peut situer un mi-chemin entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, il y a bien une raison dans l'histoire, mais on peut prendre en main sa propre histoire en étant conscient du déroulement de cette raison-là, qui est donnée par le mouvement astrologique. Donc c'est une ouverture formidable par rapport à la manière d'envisager le futur, alors en termes politiques, en termes économiques, en termes humains, tout simplement.
André ?
Je reviens à peu près au même, en disant à ma manière, à moi, c'est que je comprends mieux ce qui se passe. J'ai une compréhension parce que il y a un ordre quand même de l'évolution cosmique. Par exemple, c'est un texte que j'ai publié en 2008, c'était l'époque de mai 68. Et alors, en 68-69, nous avions la conjonction Jupiter-Uranus, justement, fin Vierge, il y a Pluton à côté, fin Vierge, entrée Balance. 42 ans se sont écoulés. Et nous avons maintenant la fameuse conjonction Jupiter-Uranus, un poisson. À l'époque, je dis, il y a un homme d'État qui a pris le pouvoir au moment de la conjonction en question, en 68 ou 69, c'est Kadhafi, le... Bon. Et alors, un pronostic que j'ai formulé à ce moment-là, c'est de dire, il ne serait pas impossible que Kadhafi puisse disparaître politiquement, pour une raison ou pour une autre, au moment où se reforme la fameuse conjonction en face. Et il est quand même significatif que on en a parlé depuis deux jours avec la révolution qui s'est passée, car jusque-là, on ne savait pas, là, au fond, la crise qui a commencé en 68, en 2008,
j'en suis plus... On se perd vite dans les dates en astrologie mondiale.
La crise qui a commencé en 2008 avec l'opposition Saturne-Uranus a été la crise économique. Est venu derrière l'opposition Jupiter-Saturne, l'Europe, mais jusqu'ici, je considérais que la conjonction Jupiter-Uranus n'avait correspondu à rien historiquement. Ce qui s'est passé, là, est très significatif, car c'est une conjonction qui se fait au premier degré du premier signe du zodiaque. Alors, une conjonction Jupiter-Uranus à l'entrée du Bélier, c'est de l'inédit, c'est de l'inattendu. C'est quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Et il faut convenir que cette révolution qui a eu lieu dans le monde arabe, elle est tout à fait initiatrice. Alors, justement, aujourd'hui, les pays arabes, ils ont la trouille. Et Kadhafi est intervenu en disant, mais il faut faire quelque chose. Ce serait intéressant de savoir s'il n'y a pas eu un renversement qui s'est fait.
Alors, sur la conjonction Jupiter-Uranus, Luc.
Et je cite encore, oui.
Je termine, André, oui, c'est pour laisser la parole à Luc. Termine.
Oui. Ah bon, à propos, c'est aussi la période de la révolution féminine de ces années. La révolution féminine, la libération, 68, 69. Et alors, j'ai lu récemment dans un texte où on disait que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, pof, pas du tout. C'est vieux jeu, tout ça, la pilule, on se dépatouille comme on peut, un phénomène de renversement significatif. C'est très intéressant de comparer. Effectivement, cette période qu'on a connue, qui était quand même un tournant important, est celle qui arrive là. Alors, il n'y a pas que ça.
Je suis pas spécialiste du cycle Uranus-Jupiter. Je ne les ai pas étudiés. Mais simplement, Jupiter, c'est la loi commune. Et pour faire simple, hein, et Uranus, c'est le changement de paradigme. Donc il y a effectivement des bouleversements sociaux qui fait qu'il y a une aspiration à la liberté, etc. Ce qui m'a frappé par rapport à l'histoire de la Tunisie, c'est que Ben Ali était dans sa 23e année de règne. Or, 23, c'est 24 moins 1, c'est-à-dire deux cycles de Jupiter moins 1. Puisque c'est un cycle de 12 ans. Hein. Et si on regarde un petit peu l'histoire de la 4e et 5e République, les crises gouvernementales, c'est au bout de 11 ans. C'est-à-dire, c'est la fin du cycle de Jupiter. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, la révolution va peut-être à tort, parce que c'était sans analyser plus la situation, mais lui, il était dans sa tête en fin de règne, puisqu'il était dans la 11e année de son deuxième cycle de Jupiter. Donc là, on est... Là encore, une incroyable correspondance entre un destin individuel et une destinée collective qui est la destinée de la Tunisie. Pourquoi ça a fonctionné comme ça? Parce qu'il y a eu la rencontre des deux. C'est pas évident qu'en Algérie ou au Maroc, ça se passe de la même manière. La preuve, c'est qu'il y en a un qui a tenté de s'immoler par le feu en Algérie, mais je veux dire, c'est de l'imitation. L'énergie est pas là, donc ça ne peut pas marcher.
Absolument.
Donc,
Oui, et donc il y a quand même, je veux dire... Une identité qui s'incarne dans un lieu donné, en fait. Je dis identité, c'est très impropre, mais il y a quand même...
Il y a des qualités d'énergie,
oui,
ou des
ça.
Forces signifiantes qui s'incarnent dans des endroits donnés, dont on n'a pas les clés, ou pas toutes les clés, malheureusement, sur le plan géographique, et ça, c'est un peu le Graal de l'astrologie mondiale.
Oui,
hein. Et probablement que ces lieux, ils changent en fonction des signes astrologiques, ont lieu les conjonctions, et en fonction du temps, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on sait faire, c'est, une fois que c'est incarné quelque part, c'est décoder le déploiement de ce fil d'histoire-là qui commence à se tisser de sa naissance jusqu'à sa mort.
Et oui, André, tu voulais rebondir.
Il y a une date rapprochée maintenant, on va pouvoir observer la valeur de la conjonction Jupiter-Uranus. Alors, dans le style traditionnel, c'est le règne du feu, Uranus, et Bélier, et alors... il va s'adjoindre le passage du Soleil et de Mars, toujours du feu. Il va y avoir un alignement Soleil-Mars, avec Mercure d'ailleurs, Jupiter-Uranus, qui va se produire fin mars, début avril. C'est un tournant qui était très important. Alors, autrement dit, le passage des trois rapides sur la conjonction est significatif que ce que contient, ce que portent les deux planètes lentes, va se manifester intensément. Le feu d'Uranus est l'air de Jupiter. Jupiter y ajoute un élément de souffle. C'est pour ça que les 14 conjonctions Jupiter-Uranus, 41 conjonctions Jupiter-Uranus, 68 conjonctions Jupiter-Uranus, les grandes manifestations spectaculaires, elles sont très, très nettement dans le signe de cette tendance. J'attends vraiment qu'est-ce qui peut se
oui,
passer.
Oui, c'est dans le cousinage.
Là,
de
on peut localiser ça autour de
Zeus. C'est Prométhée, absolument.
Ça ne peut donner que des.
Ça ne peut donner que des étincelles.
Oui. Complètement. Oui, oui, c'est ça. C'est alors, deux silex qui se rencontrent.
Alors, dans un texte récent, j'ai fait une autre interprétation. Il va se produire dans ces journées-là, une opposition Jupiter-Saturne. Elle se reproduit. Et alors, Neptune va se trouver au semi-carré d'Uranus, au sesquicarré de Jupiter. Et l'interprétation que j'avais donnée, c'était que nous tendions à avoir des manifestations populaires de caractère révolutionnaire. J'ai pris une précaution en disant, mais ça peut aussi être une pandémie. Neptune fait penser
oui.
à
tout Alors, ce qui est attentat. Il faudrait regarder, mais là j'ai pas la réponse. Où se trouve cette conjonction Jupiter-Uranus du Bélier par rapport au grand cycle Jupiter-Uranus dans tous les signes du zodiaque. Oui. Il faudrait regarder.
Alors, l'ennui de procéder de cette façon, c'est que quand c'est trop lointain, on peut difficilement faire la comparaison, car le monde n'avait pas beaucoup changé tant que c'était le monde qui s'arrêtait à Saturne avec l'arrivée d'Uranus. De Neptune, de Pluton. Alors, on peut quand même, si, on peut faire la conjonction, la révolution industrielle, elle a commencé à la conjonction Uranus-Neptune du début du Capricorne autour de 1821, mais on peut difficilement faire des comparaisons.
Oui, on ne peut pas comparer les formes, on peut comparer le sens.
On peut comparer
le sens.
Le sens, oui.
Les formes sont créées par l'histoire, non, mais le sens reste présent. Mais
l'astrologie, c'est une connaissance du sens.
Absolument.
Ce n'est pas une connaissance d'autre de plus, mais c'est fondamental, c'est l'essentiel.
Il y a une chose très étonnante. Moi, je crois que si on veut vraiment faire de l'astrologie mondiale de manière un peu globale, il faut remonter au 6e siècle avant notre ère.
La grande conjonction Uranus.
La période axiale.
On
avait une triple conjonction Uranus-Neptune-Pluton en taureau en -576, -577, et qui est rarissime puisqu'elle se reproduit tous les 4 millions à peu près. Donc on n'en a jamais eu depuis. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En l'espace de 30 ans, naissance de Lao Tzu, naissance de Confucius, naissance de Bouddha, naissance de Pythagore et de Zoroastre et destruction du temple, du premier temple de Jérusalem.
Et j'ajoute encore,
l'histoire du monde a changé à partir de ce moment-là.
Mais c'est la naissance de la civilisation. Mais j'ajoute
telle qu'on la connaît nous.
Vous oubliez quelqu'un.
Il y a eu le jainisme.
C'est la naissance du rationalisme également.
Et le siècle d'or d'Athènes et du rationalisme. Absolument.
Alors là, à propos, on revient à la notion de la grande année, la véritable grande année. Parce que j'ai lu récemment dans une revue un astrologue qui parle de la grande année et qui cite la précession des équinoxes. Alors,
c'est une erreur.
Non, la grande année, c'est celle dont on a parlé là.
Absolument.
Oui. Ah oui. Alors, on peut remonter. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais pour la comparaison avec le vécu, il y a une telle mutation. Et vous voyez la mutation en cours actuellement avec la découverte des exoplanètes. On est allé du côté on découvre au-delà de Pluton.
Je vais te poser une question à André, parce que effectivement la découverte d'Uranus et de Pluton a accéléré l'histoire d'une manière fabuleuse. Oui. 1781, Uranus, ensuite Neptune, ensuite Pluton. Mais est-ce qu'on a des idées sur la fonction de Eris, la dernière planète qu'on a trouvée récemment en astrologie mondiale?
André.
Pluton,
Eris. La planète qui a été trouvée après Pluton, Eris.
Ah,
qui est la planète de la discorde.
Tu veux dire la discorde? C'est la copine de.
Non, mais je suis sûr qu'il y a déjà des astrologues qui ont fait un bouquin là-dessus. Hein.
C'est pas ça.
J'en suis sûr. J'en suis sûr. Alors on se jette comme des fauves sur des cailloux qui sont mal foutus. Le système solaire, c'est un ordre. Ça fonctionne, marche bien. Alors les planètes avec le soleil marchent. Et quand on a affaire à des haricots de rien du tout, mais je vois des bouquins, des gars qui font des livres superbes en la matière. Non mais
en termes de taille, Eris, si je ne m'abuse, plus grosse que Pluton.
Elle est plus importante.
On peut dire que Pluton appartient aussi, on revient à Pluton, il appartient au système solaire dans la mesure où un fragment de son orbite se situe entre Uranus et Neptune. Les autres sont au-delà. Je me garde bien comme astrologue de faire des interprétations là-dessus, mais il faut attendre. D'ailleurs, les astrophysiciens, surtout les astronomes, ils n'arrivent pas à se retrouver. Alors qu'un astrologue se jette sur ces choses-là en faisant des interprétations, je me dis, oh là là.
Mais justement, le fait que Pluton ait été rétrogradé en planète naine, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, André?
Non.
Le fait que, tu sais, Pluton a été en 2006 rétrogradé planète naine. La communauté astronomique de Prague et la rétrograde.
Il devrait y avoir des mauvais aspects sur Pluton.
Est-ce que ça a changé quelque chose?
Non, je pense que en astrologie mondiale, ça change rien. On peut le lire d'un point de vue symbolique en disant que ça veut dire que l'humanité a encore beaucoup de difficultés à intégrer la fonction de Pluton, qui est la puissance de la volonté. Alors que son aspect ombre, c'est la volonté de puissance. Donc ça veut dire que cet aspect de Pluton, qui est symboliquement rétrogradé au rang de planétoïde, n'est pas encore intégré par la conscience collective humaine, et donc j'y vois plutôt un avertissement.
Oui, tout à fait. Et il est souvent abordé cette notion par beaucoup de philosophes, la formulation de l'accélération du temps. Toujours pour moi une énigme, l'accélération du temps. Est-ce que en astrologie mondiale, vous avez une réponse à cela, par exemple?
L'accélération de l'histoire, oui.
Oui, mais il parle de l'accélération du temps. C'est pour ça que ça reste déjà la formulation reste pour moi assez incompréhensible. mais je voulais quand même l'aborder éventuellement si vous aviez l'un et l'autre un regard là-dessus par rapport au cycle planétaire.
Non, mon sentiment, c'est que le temps, et là je me réfère aux données scientifiques, le temps n'existe pas. C'est-à-dire les équations de la mécanique quantique et de la relativité générale peuvent être exprimées sans la variable du temps, sans la variable T. dans certaines structures, en tout cas. Donc le temps, en fait, probablement que le temps est une reconstruction du cerveau pour rendre humaine la toute-puissance des archétypes qui, sans cet étalement du temps, nous écraserait.
Pourtant, l'astrologie est liée au temps. Dans la pratique prévisionnelle, on
se situe,
un rapport au temps, quand même. Saturne est, par exemple, symboliquement, le dieu du temps. Donc, il y a un rapport au temps qu'on ne peut pas évacuer.
On ne peut pas l'évacuer à un certain niveau de réalité qui est celui du monde astrologique. Mais au-delà, si on se place dans une symbolique de la galaxie, par exemple, tout ça, ça semble immobile.
Bien sûr.
Donc, ce qui veut dire que si on se place, on peut placer sa conscience au-delà du temps et voir que tout ça, c'est à la fois éternel et en mouvement. Enfin, c'est un truc difficile à exprimer parce qu'on l'exprime forcément dans le temps. Mais je veux dire, tout est déjà là, quoi, quelque part.
Oui. André, ta réflexion sur le temps.
Ce que je pense, pour revenir à l'initial de ton intervention, c'est que tout a changé avec la révolution industrielle de la conjonction Uranus-Neptune 1821. Et cette conjonction est revenue avec celle de
89.
D'une décennie. Il faut dire que, par exemple, le phénomène, les principales configurations récentes, c'est la triple conjonction. C'est la concentration planétaire des années 82, 83, 84. Ce sont les années où l'ordinateur personnel fait son apparition. Il y en avait qui en avaient avant, mais ça a éclaté dans les années. Alors, il y a eu un essor de la révolution technologique à cette époque considérable. Et alors, la configuration la plus pointue, c'est lorsque Jupiter s'est joint à la conjonction Uranus-Neptune de 97. Et c'est Internet qui est apparu. Internet est apparu, a commencé un peu, mais il y a eu une explosion d'Internet dans ces années-là. À l'an 2000, il y avait déjà une population considérable. Alors au fond, ce qui s'est passé avec la conjonction Uranus-Neptune, c'est surtout cette mutation qui s'est opérée.
Alors pour aller dans ce sens, sans entrer dans des choses trop techniques, ce qui s'est passé depuis en gros entre 85 et 90, quoi. C'est l'équivalent sur le plan des cycles astrologiques de l'arrivée au pouvoir de César en moins 60. L'équivalent suivant a été 622, donc l'Égir, donc la croissance de l'Empire musulman. Ensuite, c'est 1307, la naissance de l'Empire ottoman. Et maintenant, c'est 88-90. Donc, on va probablement vers un changement de civilisation comparable à ce qu'a été dans l'histoire l'Empire romain, l'Islam et l'Empire ottoman.
Autre comparaison, je reviens à l'indice cyclique. Tous les cinq siècles, il y a un moment où les planètes se concentrent au maximum. Si on remonte à la configuration antérieure, c'est l'époque où les marins font la conquête de la... 1490, par là, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et alors, on s'éclate, si j'en... On fait la conquête
conclure,
du monde.
On va conclure.
Et aujourd'hui, on fait la conquête du monde virtuel.
Je vais faire la comparaison avec maintenant.
Non, mais on va arriver à la conclusion de l'enregistrement. Donc, je vais vous laisser la parole à
avec Internet,
pour conclure.
Avec Internet, on navigue partout.
Ouais. Oui, c'est sûr.
Voilà ma conclusion.
Luc.
Oui.
Pour conclure, tu as quelque chose à dire avant que...
Moi, je crois que l'astrologie mondiale est sous-utilisée ou sous-étudiée. Parce que, d'une part, il y a très peu de gens qui en font, mais ça, c'est pas un critère. Mais le critère, pour moi, c'est quoi? C'est l'utilité que ça peut rendre au monde politique, au monde économique, et à... parce qu'au fond, c'est un outil qui permet de prendre en main sa propre histoire, en termes collectifs. C'est-à-dire que l'astrologie individuelle permet de prendre en main sa propre histoire ou son propre devenir sur le plan individuel. L'astrologie mondiale est un moyen, non pas de prévoir l'avenir, mais de penser le futur. C'est-à-dire de faire de la prévoyance par rapport au moment de crise, au moment de danger, et de recontextualiser un moment du futur par rapport à ces grandes résonances qu'il a dans le passé. Par exemple, est-ce qu'on peut établir... La réponse est oui, mais est-ce qu'on peut établir des résonances entre ce qui se passe en Israël et les croisades, par exemple, parce que c'est le même cycle astrologique. Donc ces grandes résonances permettent d'aborder, au fond, des situations politiques, économiques, sociales compliquées et permettre de les éclairer par rapport à certains points du passé et aussi en comprenant les énergies qui sont en jeu. Donc je trouve que c'est un outil qui devrait être plus utilisé pour sortir du bateau ivre dans lequel on se trouve aujourd'hui et qui n'a plus de gouvernement.
Bateau ivre qui n'est pas Rimbaldien, là. Rimbaud.
Qui n'est pas Rimbaldien, non, non, voilà. Il est, oui, absolument.
C'est pas le bon, celui-là.
Absolument.
Bah, merci beaucoup.